Vous écoutez
RMC.
Hamza. Bon, déjà, deuxième victoire pour les pays africains. Le bilan commence à s'améliorer un petit peu parce que c'était très mal parti.
C'est la meilleure équipe de toute façon.
Ça fait du bien parce que on se retrouve dans une situation où enfin tu as un match qui est plutôt bien préparé et qui est concrétisé par une victoire, parce qu'encore aujourd'hui le Maroc a joué sur ses forces. Alors Thibaut Courtois dit le Maroc a placé son bus. Je suis pas forcément d'accord. Le Maroc a très très bien défendu, mais je pense qu'à la mi-temps ils ont aussi pris conscience. Alors je sais pas si c'est une prise de conscience collective ou de Regragui, mais il y a une prise de conscience que mais aujourd'hui il y a bien mieux à faire que de défendre uniquement. Il y a la possibilité d'aller chercher une victoire face à cette faible, très faible équipe de Belgique. Et on se retrouve d'ailleurs dans une situation, Gilbert, où lors des deux premiers matchs face à la Croatie et face à la Belgique, le Maroc n'a concédé que 5 tirs cadrés. Le Maroc, depuis l'arrivée de Walid Regragui, n'a pas pris un seul but. 5 clean sheets en 5 matchs. Donc c'est une équipe qui défend très bien et qui a la qualité individuelle. Et là, je sais ce que où m'attend Kevin concernant Hakim Ziyech. Hakim Ziyech,
il est au coin nord, il fait gaffe.
Il a eu.
Sais que Hamza et moi, on s'est fait allumer sur les réseaux sociaux après le premier match parce qu'on a dit, et moi je maintiens, que Hakim Ziyech avait été mauvais contre la Croatie. Il a été transparent.
Mais pas seulement face à la Croatie, Gilbert. Hakim Ziyech, il faut savoir qu'avant ce match-là, Hakim Ziyech, sur tous ses matchs de Coupe d'Afrique et de Coupe du Monde, n'avait pas marqué un seul but, n'avait pas réalisé la moindre passe décisive. Et ses statistiques face à la Croatie, oui, il a été mauvais. Maintenant, on peut aussi dire qu'aujourd'hui, il a fait un bon match. Enfin, ça fait
tout
plaisir.
À fait.
Parce que c'est un joueur de talent.
Homme du match.
Homme du match. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait vraiment un gros match. On a parlé tout à l'heure du socle défensif. Encore une fois, c'est peut-être pas le plus élégant des joueurs, mais un joueur comme Amrabat, il est indispensable, je trouve, à cette équipe. L'entrée de Sabiri, qui avec l'absence finalement d'Amin Harit, aura peut-être à terme une carte à jouer si le Maroc va un peu plus loin dans la compétition, parce que c'est un très bon joueur que l'on découvre cette saison. C'est un joueur qui la saison dernière était encore en série B, je crois, du côté d'Ascoli. Il arrive en janvier dernier à la Samp. Il réalise un bon début de saison du côté de la Samp et il s'est installé depuis septembre dans la rotation. Il en est déjà à 2 buts. C'est vraiment un joueur très très intéressant. Mais le Maroc a fait son match et enfin encore une fois le Maroc et plus globalement les pays africains ont réussi à concrétiser des prestations souvent intéressantes. Pas seulement sur 2022, mais aussi sur 2014, sur 2018, mais qui n'ont pas souvent été récompensées.
Alors, tout à l'heure, Mustapha Hadji était c'était sur RMC, dans l'intégrale Coupe du Monde. Et lui, il a son explication à lui sur la réussite actuelle du Maroc. Écoutez.
Après Vaï, les joueurs se sont libérés. Quand tu es un joueur de football, quand tu vas à l'entraînement, et t'as pas envie d'aller à l'entraînement parce que Vaïd, c'est très dur. Je lui donne un moment de respect parce que j'ai beaucoup appris avec
lui. Bien sûr.
Mais sur le plan humain, c'est compliqué, c'est très dur. Lui, il a encore gardé le football des années 80, 90.
Voilà. Donc c'est il dit en gros le départ de Vaïd Halilhodžić a tout changé.
C'est pas la première fois qu'on entend ça au sujet de Vaïd. Hein.
Il y avait des résultats avec Vaïd Halilhodžić, il les a qualifiés.
Oui, mais ça le suit depuis des années. Le problème c'est que les mecs ils peuvent faire des résultats, ça veut pas dire qu'ils s'entendent avec. C'est pas toujours l'entraîneur qui fait que t'as des résultats. Les mecs ont le droit de bouger sur le terrain aussi, même pour eux. Ce qu'il faut, c'est une bonne entente pour encore aller plus haut. Il faut que les acteurs avancent ensemble et pas les uns contre les autres.
Bon alors, Ziyech, Kevin, vas-y, avant qu'on accueille Redouane au 32-16.
Non, mais bon, après, moi vous savez bien que j'aime beaucoup et que je suis depuis très très longtemps Hakim Ziyech. Et c'est vrai que c'est un joueur qui a un sacré caractère, c'est un joueur qui a même un sale caractère parfois. Mais voilà, quand tu vois tirer des coups de pied arrêtés comme ça, quand tu le vois se donner à fond avec et sans le ballon, après c'est normal, hein, comme disait Hamza, et je suis d'accord avec lui, en championnat, il a peu joué, donc il a peu de rythme, donc il lui fallait aussi peut-être un match pour se mettre dedans. Bon, il avait quand même mis un but du milieu de terrain lors du dernier match de préparation quelques jours avant la Coupe du Monde. Donc voilà, moi je suis content parce que, alors comme vous le savez, il y a beaucoup de joueurs qui sont formés aux Pays-Bas dans cette équipe et je sais qu'il y a aussi beaucoup de Marocains en Belgique, donc c'était un peu un derby Maroc-Belgique. Mais quand je vois cette défense, hein, surtout avec Romain Saïs qui est excellent en Angleterre depuis plusieurs saisons, Naef Aguerd qui est également excellent, Hakimi et Mazraoui, c'est quand même une défense qui a fière allure. Sofiane Amrabat.
Hakimi qui est sorti avant la fin, il y a peut-être un souci, hein.
Ouais.
Je sais pas si on a plus d'infos là, j'ai pas vu passer.
Ouais, il a eu un petit pépin physique ces derniers jours. Il y a pas eu, il était en fait un petit peu incertain. Ray Gragui a pris le risque, mais il a pas voulu prendre le risque justement de le faire jouer 90 minutes. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu l'image du gardien Bounou, le gardien titulaire de Séville, oui, qui devait débuter la rencontre, qui est rentré sur le terrain pour l'hymne national et qui finalement n'a pas débuté le match. Il a eu un problème. Alors, Walid Ray Gragui parle d'un problème physique qu'il aurait contracté lors du match face à la Croatie. Et du coup, il s'est pas senti, Bounou, de débuter ce match. Je veux bien le croire, mais il y a un supporter qui a filmé notamment le
on a aussi parlé de vertige.
Exactement. Et on a l'impression que
c'est un peu bizarre quand même d'être là pour les hymnes et de pas démarrer le match. C'est-à-dire
Exactement. Et sur la vidéo bizarre du supporter, la vidéo en question, on voit l'hymne national marocain avec les joueurs. On voit un Bounou qui se sent pas très très bien. Donc peut-être vertige. Bon, il y a la version officielle de Ray Gragui. Moi, je veux bien le croire. Il y a pas de problème. Mais je pense que c'est rien de grave finalement pour Bounou qui devrait rapidement retrouver sa place.
Redouane est là au 32-16 avec nous. Salut Redouane.
Salut. Déjà, ça me fait trop plaisir de passer sur RMC en direct.
Eh ben, écoute, t'es le bienvenu.
Merci, c'est gentil. Et je voulais intervenir sur le Maroc. Et je partage ton avis déjà, Daniel, sur Hakim Ziyech.
Ah, moi, j'en ai pas parlé. Hein.
C'était moi.
Ouais, c'était Kevin.
Non, Daniel, t'as dit comme quoi il était transparent.
Non, ça c'est moi qui l'avais dit, qu'il n'avait pas été bon contre la Croatie.
J'en ai pas parlé, Radouane, je suis désolé, vois avec les autres.
Gilbert, voilà. C'est la première fois. Et ouais, je trouve qu'on a trouvé un Ziyech, ouais, même défensivement, en première mi-temps, il était au top. Et après, en deuxième mi-temps, il nous a fait montrer ce qu'il savait faire, tout simplement. Et comme toute l'équipe, c'était grandiose. On leur a marché dessus en deuxième mi-temps, on leur a laissé aucune chance. Parce que quand même, faut le faire, battre la Belgique, demi-finaliste du dernier mondial, même si l'équipe est vieillissante, faut quand même le faire. Et je trouve que le Maroc est monté en puissance. On a subi un peu contre les Croates, on n'a pas fait un gros match. Une première mi-temps, on a bien laissé passer l'orage, et en deuxième mi-temps, voilà quoi. C'était parfait.
Je pense que derrière l'Algérie, je sais pas ce qu'en pense Hamza, ce que vous en pensez messieurs, mais c'est quand même la meilleure équipe africaine pour moi, le Maroc. Quand Sadio Mané n'est pas avec le Sénégal.
Le Sénégal au-dessus, non ?
Je parle à la Coupe du Monde. Hein.
Sur les résultats en Coupe du Monde ?
Non, à la Coupe du Monde cette année.
Hamza et Redouane donnera son avis ensuite. Vas-y Hamza.
Alors, si tu parles aujourd'hui à l'instant T, le 27 novembre, l'Algérie, je suis pas sûr qu'elle fasse partie du top 8 ou du top 10 africain. Il y a tellement de choses à reconstruire, on va pas en parler parce qu'on en aurait pour 4 heures. Mais je pense qu'en termes, en fait, il y a différentes choses à dissocier. En termes d'effectifs et de qualité individuelle, aujourd'hui, il y a le Sénégal, il y a le Maroc, il y a le Ghana avec toutes ces recrues binationales que moi je qualifierais d'opportunistes. Il y a la Côte d'Ivoire qui aussi n'est pas qualifiée mais qui a une belle génération. Maintenant, collectivement, effectivement, il y a le Sénégal qui, sans Sadio Mané, a perdu quand même un joueur. Je sais que Daniel en parle régulièrement et je le rejoins totalement sur cet aspect. Et puis après, collectivement, le Maroc aussi a quelques certitudes parce que Ray Gragui n'a pas cherché à tout chamboulé après le départ de Vaïd. On le rappelle, il n'a eu qu'un seul rassemblement en septembre pour travailler avec les joueurs. Il s'est appuyé sur le travail de Vaïd, le socle défensif qui avait été construit notamment par Vaïd, ce 4-3-3 que l'on a vu notamment lors de la dernière CAN, pas seulement parce qu'on l'avait vu aussi en 4-4-2. Et derrière, il a aussi et surtout redonné confiance à certains joueurs, les Mazraoui, les Ziyech et d'autres. Mais je pense que collectivement, aujourd'hui, le Maroc, c'est l'un des projets les plus cohérents du continent.
Redouane, tu voulais rajouter un truc ?
Franchement, je suis un peu perdu, désolé. Mais non, ouais, c'était...
Tu te vois déjà en huitième, Redouane ? Tu te vois en huitième contre l'Allemagne ?
Oh oui, on a fait le plus gros, je pense. Je ne nous vois pas perdre largement contre le Canada, déjà.
Ouais.
Ok, déjà éliminé, en plus.
On a fait le plus gros, en fait, c'est aujourd'hui. On a réussi, et même contre la Croatie, notre qualification, c'est là où elle joue les deux premiers matchs. Hein.
Moi, je pense que les Marocains, ils préféreraient jouer l'Espagne que l'Allemagne.
Ouais. Direct, l'Espagne.
Ah c'est un autre derby, l'Espagne.
Et en plus, on leur a fait mal. El Nesyri, il avait fait mal à Ramos. Hein.
Bon, écoute, pourquoi pas, ça va dépendre des derniers résultats. Bon, ouais, Ramos n'est pas là, donc il pourra pas lui refaire mal, en l'occurrence. Redouane, merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Juste un mot, Gilbert.
Je voulais passer un bonjour à mon pote.
Oui.
Je voulais passer un bonjour à Mamad. Il nous écoute. Très bien. C'est un fidèle de l'After.
Salut Mamad,
on l'embrasse.
Eh ben écoute, le bonjour est passé. Oui, Hamza.
Juste un mot, Gilbert, ouais, par rapport à ce que disait salut Redouane. Par rapport à ce que disait Redouane, il faut aussi faire attention à un point très important que, et là je vais globaliser sur l'ensemble des sélections africaines, pas seulement en 2022 mais encore une fois sur les dernières années. On a souvent des sélections africaines qui performent entre guillemets face au gros, si ce n'est pas au niveau du résultat, au moins au niveau de l'impression. Le Nigeria qui perd sa qualif à la dernière minute face au Nigeria, le match nul de l'Espagne face au Maroc alors que le Maroc était déjà éliminé, la Tunisie qui perd à la dernière minute face à l'Angleterre. En 2014, il y avait le match nul du Ghana face à l'Allemagne et ils avaient perdu en toute fin de match face aux États-Unis, face au Portugal. L'Algérie, pareil, face à la Belgique. Le problème des pays africains, j'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas si c'est un problème de rigueur, de préparation, mais c'est sur ces matchs supposés plus faciles ou face à des équipes, on le voit encore avec la Tunisie face à l'Australie, ou des équipes supposées plus faibles. En tout cas, la rencontre la plus abordable que l'on pourrait estimer sur le papier pour ces pays africains. Et sur cet aspect-là, il faut faire très attention pour le Maroc, mais pour toutes les sélections africaines.
Oui, alors il y a, je sais pas si tu as lu ça, il y a des dossiers récemment publiés qui, où on explique qu'il faudrait que les pays africains affrontent plus souvent des grosses nations. Et c'est vrai que sur le continent, quand t'as les qualifs et que tu vas jouer, je sais pas, au Burundi ou au Swaziland, c'est pas ça qui te fait progresser, quoi, en gros, quoi. Tu les fais progresser eux, mais pas toi.
C'est ça. Et en plus, les matchs là-bas sont très, très compliqués. C'est-à-dire que t'as pas grand chose à gagner, mais t'as énormément de choses à perdre. Et effectivement, quand on voit récemment les matchs amicaux intercontinentaux, je pense au Algérie-Colombie, je pense au Côte d'Ivoire-France, je pense au Algérie-Mexique, je pense au Mexique-Chili, tous ces matchs-là. Il y a une effervescence qui est certainement beaucoup plus importante en Afrique parce que c'est l'occasion de se montrer face à ces gros pays et on voit souvent des pays africains qui font des bons matchs lors de ces matchs de préparation ou ces matchs amicaux. La disparition de la Coupe de Confédération, ça c'est un autre débat. Pour moi, c'est une tristesse sans nom. Mais effectivement, pour ces pays africains, c'est vrai qu'il y a peu d'opportunités de se jauger face aux pays sud-américains, face aux pays asiatiques et face aux pays européens.